Transistor.
La culture domine tout.
Transistor
Web. Musicocentré, épisode numéro 11, une émission de musique classique qui vous est proposée par Clara Nouvelle. Bonjour à tous, chers auditeurs. Retrouvons-nous aujourd'hui en direct à l'occasion de la journée de la radio 2021 de l'ENS de Lyon. Le podcast est-il le destin de la radio ? La question est vaste, et si elle vous laisse pantois, je vous propose d'éclaircir un peu les voies du sort en invoquant, avec moi, le destin en musique. Ces quatre coups du destin, issus de la célébrissime 5e symphonie de Beethoven, retenez-les bien, car nous allons les retrouver tout au long de l'émission. En effet, la partition est bien souvent une machinerie, menant irrépressiblement vers la fatalité. De la même manière que l'acmé de la pièce est souvent contenu en creux dans les mesures précédentes, la musique semble ainsi être visionnaire. Et cette vision, c'est d'abord celle des Parques, dans un trio issu de l'opéra Hippolyte Arici de Rameau. Petit rappel, les Parques, ce sont ces trois divinités qui tissent et coupent le fil des destinées humaines. Mais taisons-nous, car le récitatif de Pluton, roi des enfers, se fait déjà entendre. Sa voix de basse donne la couleur. C'est une catabasse qui se présente au spectateur. Alors qu'il chante le récitatif, se font entendre ponctuellement des accords bouleversants et tragiques, bien loin de l'idée d'un opéra galant et divertissant. La scène se présente immédiatement comme à la fois terrifiante et édifiante. Le spectateur peut alors voir naître en lui le sentiment tragique. Après que Pluton a convoqué les trois parques en leur demandant d'annoncer son sort à Thésée, une ouverture musicale se fait entendre. La tension monte ainsi et laisse le spectateur en position de suspens, le rappelant lui-même à sa condition humaine, dépendante de la destinée.
Thank you.
Le départ en canon des parcs crée un effet de submersion du spectateur, tout en formant une communauté harmonique. Les intervalles serrés provoquent un certain malaise et sont encore renforcés par une gamme descendant demi-ton par demi-ton, à la manière d'une descente aux enfers contre laquelle Thésée lutterait. Les parcs chantent souvent avec un léger décalage, ce qui redouble les paroles, laissant une impression d'omnipotence de ces divinités, ne laissant aucune occasion d'échapper au fatum. C'est donc bien souvent sous l'angle de la tragédie que la destinée se manifeste en musique, donnant ainsi l'occasion d'une exploration poussée des complexités des tourments humains. La sonate dite « tragique » de Nikolai Metner s'ouvre sur 5 coups martelés, encore une fois « coups du destin ». De l'intérêt, donc, de garder en tête l'héritage des coups du destin beethovenien. Dans cette sonate, on entre en un plongeon et l'on est immédiatement emporté par un torrent d'un grand lyrisme. La dimension martiale, manifestée par les accords plaqués, se conjugue ainsi à la délicatesse avec les arpèges de la main gauche. Thank you. Remarquez ici la reprise du thème principal qui oscille entre majeur et mineur à la manière des subtilités de la vie humaine. On entend une voix grave qui n'est pas sans rappeler les mélodies de Liszt, tout particulièrement sa Méphistovale sous sa sonate en si. La virtuosité se fait féroce, aussi férale que les multiples détours et des ruses du destin. Le martèlement, le coup de tonnerre, est donc le signe prémonitoire d'une destinée sur le point de s'accomplir dans ces musiques de la fatalité. C'est ainsi sur trois coups du destin, encore eux, que s'ouvre la Forza del Destino, opéra de Verdi.
Thank you.
Alors, que raconte donc la force du destin ? Léonore et Don Alvaro s'aiment, malgré le refus du père de la jeune fille à donner la main de sa fille à Alvaro. Ils prévoient de s'enfuir, mais sont surpris par le père de Léonore. En signe de soumission, Alvaro jette son pistolet à terre. Mais en tombant, le coup est tiré et tue le père de Léonore. La fuite amoureuse devient alors fuite criminelle. 2 ans plus tard, nous retrouvons Léonore qui se réfugie dans la vie d'ermite pour expier ses péchés, tandis que son frère Don Carlo cherche les 2 amants pour venger la mort de son père. Alvaro, quant à lui, est devenu soldat et sauve la vie d'un autre militaire, qui n'est autre que Carlo, le frère de Léonore. Les 2 hommes ne se reconnaissent pas, mais Alvaro est lui-même aux portes de la mort. Il confie alors à Don Carlo une mallette avec son plus grand secret, son identité véritable. Poussé par la curiosité, Don Carlo ouvre la mallette, alors que Don Alvaro est encore vivant, et il comprend tout. Il défie alors Alvaro en duel, mais celui-ci est interrompu. Alvaro en profite alors pour s'enfuir dans un monastère. 5 ans après, Don Alvaro est retrouvé par Don Carlo, qui le provoque encore une fois en duel, près de la grotte où Léonore s'est retirée des années auparavant. Celle-ci entend le bruit de la lutte et rejoint Alvaro, qui a mortellement blessé Don Carlo. Les amants se reconnaissent, mais Carlo poignarde Léonore pour assouvir sa vengeance. Celle-ci meurt alors dans les bras de son amant, tandis que Don Alvaro, désormais seul au monde, maudit la force du destin. Les thèmes de cette ouverture oscillent entre un souffle preste et tempétueux et des thèmes doux, voire allants. C'est à travers eux un paysage bucolique italien qui apparaît sous les yeux du spectateur, en même temps que la mère douceur d'un amour livré à de multiples rebonds tragiques. C'est néanmoins sur un aspect exaltant que se conclut l'ouverture, dans la jubilation virtuose d'un opéra populaire et partagé. de prédictions en oracle. Explorons désormais les arcanes du premier mouvement du deuxième concerto pour piano de Saint-Saëns. Le piano ouvre seul, comme au bord d'un gouffre. C'est une ouverture sans une seule respiration qui se dessine, un long fil mélodique qui ressemble au parcours d'une vie, ne tolérant pas de silence. L'originalité de l'écriture pianistique vient du fait que Saint-Saëns l'a écrite comme pour un orgue, d'où la proéminence des basses. Or, les basses ne sont-elles pas utilisées, dans bien des pièces, pour figurer la puissance inexorable de la fatalité ? Entre calme et effusion, le piano se dévoile comme une puissance inflammable qui semble défier l'ordre des choses en poursuivant à toute vitesse, tandis que l'orchestre, à un tempo bien plus lent, expose le thème principal. En parallèle de cette incandescence, se dévoile néanmoins une grande puissance réflexive. Tout comme le piano et l'orchestre s'harmonisent à des tempos différents, c'est ici la destinée de l'individu qui se noue avec la destinée du monde en un contrepoint bouleversant. Mais quand la destinée se joue des hommes, où aller? C'est peut-être à ce tourment qu'essaie de répondre la musique.
C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errante au gré de l'onde. Conduisit un jour, l'île est toute petite, mais la fée qui l'habite, gentiment nous invite à en faire le tour.
Mélodie de Roger Fernet sur une musique de Kurt Weill, on entend bien la désillusion d'une musique d'entre-deux-guerres chantée en sous-sol dans les cabarets de Berlin. Yukali, un mot vide de sens fait de syllabes rassemblées, une terre inexistante, le pays de cocagne que chacun s'invente pour se figurer un destin, un but. Le rythme de tango habanera est séduisant, aussi séduisant que la perspective d'un destin, d'un futur sans souffrance. En même temps, la musique est en déliquescence. En effet, l'espoir se délite à mesure que les illusions tombent. La musique apparaît alors comme le dernier éclat d'absolu auquel se raccrocher.
Yukali, c'est le pays de nos désirs. Yukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Soucis, c'est dans notre
Terminons alors notre parcours existentiel sur une pièce d'Arvo Pärt intitulée Silwan's Song. Le titre fait référence à Saint Silwan de la Tosse, qui mena le combat d'une vie contre l'orgueil. On raconte que, alors qu'il demandait à Dieu quoi faire pour que son âme reste humble, Dieu lui aurait répondu « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas ». Cet enfer dans lequel Silwan tint son esprit est donc peut-être symbolisé par cette musique de la répétition, minimaliste et aride à l'image de la vie humaine, plongée dans une certaine désolation et un perpétuel combat contre ses propres démons, menés en silence. Mais la musique continue inlassablement, les thèmes se répètent comme une manière de persévérer, de ne pas désespérer et de croire en un destin heureux et juste à accomplir. Dans la foi, les profonds moments de doute sont appelés déserts. Cette musique à l'ambitus réduit et entrecoupée de silence pourrait donc être à l'image d'un désert de la foi, dans lequel le protagoniste marche bien longtemps, jusqu'à la mort peut-être, mais toujours dans l'espoir de s'élever à la sainteté. Ne pas désespérer donc, et toujours croire en un sens, pour ne pas rester prisonnier d'une errance sans fin. Telle est l'idée que nous pouvons retenir de notre parcours à travers le destin en musique. Si la musique exprime des tragédies, elle-même offre un idéal inébranlable à l'homme en quête de sens, un destin d'un autre type. Merci à tous, chers auditeurs, pour votre fidélité, et à bientôt pour une nouvelle thématique! Et je laisse maintenant place aux souvenirs musicaux d'Anouk.